Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Voici depuis plusieurs mois maintenant que nous vous proposons de partager avec nous cette œuvre d'une immense richesse, qui est celle des lettres des pères du désert, les premiers pères de l'Église, qui vécurent du IIIe siècle à nos jours, plus spécialement au Moyen-Orient et en Russie. Aujourd'hui, poursuivons avec Jean Cassien, qui est plus particulièrement orienté sur l'expérience du combat spirituel, celui qui nous permet de quitter le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Rien ne se fait sans la grâce de Dieu. Voici quelques pensées extraites des conférences de Saint Jean Cassien.
L'orgueil, grand piège sur le chemin de la pureté du cœur.
Il convient que nous croyions d'une foi inébranlable que rien dans ce monde ne se fait sans Dieu. On doit reconnaître en effet que tout arrive ou par sa volonté ou par sa permission. Le bien par sa volonté et avec son secours, le mal par sa permission. Lorsque pour nous punir de nos crimes, ou de la dureté de notre cœur, il nous abandonne à la tyrannie du démon, ou des ignominieuses passions de la chair. L'apôtre l'enseigne très évidemment lorsqu'il dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés aux passions d'ignominie. » Et encore, « Parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés, pour faire ce qui ne convient pas. » Mais le Seigneur en personne déclare par la bouche du prophète « Mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël ne m'a pas obéi, c'est pourquoi je les ai abandonnés aux pensées de leur cœur et ils ont marché suivant leurs propres conseils. » Un jour, nous demandâmes au Père Daniel « Comment se fait-il que, retirés dans nos cellules, nous sentions parfois notre cœur se remplir de tant d'allégresse avec les sentiments d'une joie si ineffable et un tel flot des lumières les plus divines qu'il ne se trouve point de parole pour le dire et que la pensée même est inégale à le concevoir. C'est alors une raison toute pure et facile. Et l'âme, comblée des fruits spirituels, connaît instinctivement que ses prières, continuées durant le sommeil même, parviennent ailées et efficaces jusqu'à Dieu. Mais il arrive aussi que nous soyons remplis d'une angoisse subite et sans cause. Nous nous sentons accablés d'une tristesse à laquelle il ne se trouve point de motif. La source en est séchée des mystiques expériences. Mais encore, la cellule devient insupportable. La lecture est un dégoût, la prière s'égare, inconstante, capricieuse, comme des gens esprit d'ivresse. Nous gémissons, nous essayons de rappeler notre esprit à sa direction première. Vainement, plus nous faisons d'efforts pour le ramener à la contemplation de Dieu, plus il glisse et s'échappe en course vagabonde. Stérilité dans l'âme. Et ni le désir du ciel, ni la crainte de l'enfer ne sont capables de secouer sa léthargie. Le bienheureux Daniel nous fit cette réponse. Nos pères nous ont appris trois raisons de la stérilité d'esprit dont vous parlez. Elle peut être une suite de notre négligence, elle peut être une tentation du démon, elle peut être une épreuve ménagée par la divine providence. Nous avons une preuve évidente que c'est la grâce et la miséricorde divine qui opèrent en nous tout bien. Viennent-elles à nous abandonner ? Rien ne sert de travailler. Quelque effort que l'on fasse, on ne recouvre pas son état premier si elles ne prêtent de nouveau leur aide. Et nous voyons s'accomplir sans cesse à notre sujet la parole de l'apôtre. Ce n'est au pouvoir ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Tout à l'opposé, il arrive souvent que la grâce ne dédaigne pas de nous visiter au milieu de la négligence et du relâchement, par cette inspiration sainte dont vous parlez, ni de faire jaillir en nous cette abondance de pensées spirituelles. Elle nous inspire, quelque indigne que nous soyons. Elle nous réveille de notre assoupissement, elle nous éclaire dans l'aveuglement de notre ignorance. Elle nous reprend et nous châtie avec clémence et se répand dans nos cœurs, afin que du moins sa touche divine nous émeuve de compunction et nous provoque à secouer notre inertie et notre torpeur. Même, il n'est pas rare que, lors de ces visites, nous nous sentions inondés soudain de parfums dont la suavité passe tout ce que l'art humain peut réaliser et que l'âme, fondue dans ce bonheur, soit ravie et transportée hors d'elle-même, perdant tout sentiment de sa demeure de chair. Le bienheureux David prie seulement Dieu de tempérer son absence. Ne m'abandonnez pas, dit-il entièrement. Comme s'il disait en d'autres termes, je sais que pour le bien de vos saints, vous avez coutume de leur faire sentir vos délaissements afin de les éprouver. Thank you.
la chair et l'esprit convoitent l'un contre l'autre.
C'est encore en vue de notre bien que nos membres eux-mêmes sont devenus un foyer de guerre. Nous le lisons chez l'apôtre. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Ils s'opposent l'un à l'autre en sorte que vous ne faites pas tout ce que vous voulez. Voilà une guerre nouvelle qui a gagné jusqu'aux fibres les plus intimes de votre corps. Et je dis que c'est là l'effet d'une providence divine. Lorsqu'une disposition se retrouve généralement chez tous, sans exception, comment y voir autre chose qu'un attribut devenu naturel, en quelque sorte, à l'être même de l'homme après la chute? Et dans ce caractère inné, le moyen de ne pas reconnaître la libre volonté du Seigneur agissant, non pas certes dans le dessein de nous nuire, mais en vue de notre bien. Quelle est donc la raison de cette lutte entre la chair et l'esprit? L'apôtre nous le déclare. En sorte que vous ne faites pas tout ce que vous voulez. Or si ce que Dieu a pris soin d'empêcher, j'entends le loisir de faire tout ce que nous voudrions, se produisait néanmoins, ne serait-ce pas un malheur pour nous? Ainsi la guerre qu'une disposition du Créateur allume en nous a d'une certaine manière son utilité. Elle nous excite, elle nous force à devenir meilleurs, et si elle venait à cesser, on lui verrait succéder une paix funeste. L'apôtre semble bien nommer trois choses. La convoitise de la chair contre l'esprit, celle de l'esprit contre la chair, la fin et la raison de ce duel, qui est, selon ses propres paroles, que nous ne puissions faire ce que nous voulons. Il en reste même une quatrième que vous n'avez pas vue, c'est que nous fassions ce que nous ne voulons pas. Nous devons prendre la chair dans ce passage, non pour l'homme lui-même, je veux dire la substance de l'homme, mais pour la volonté de la chair et les mauvais désirs. Tout de même que l'esprit ne désigne rien de substantiel, mais les bonnes et spirituelles aspirations. C'est aussi bien le sens que le bienheureux apôtre exprime plus haut, avec toute évidence. Voici comment il commence. « Je dis donc... marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, ils s'opposent l'un à l'autre, en sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Comme ces deux sortes de désirs, ceux de la chair et ceux de l'esprit, se rencontrent à la fois dans un seul et même homme. Il s'ensuit une guerre intestine et de tous les jours. La concupiscence de la chair se précipite impétueusement au vice et se plaît aux délices d'un repos terrestre. La concupiscence de l'esprit s'y oppose au contraire et désire si vivement d'appartenir tout entière à la pensée des choses de Dieu qu'elle souhaiterait proscrire les nécessités mêmes de la chair, jalouse de ne pas voir interrompre ses occupations spirituelles au point de refuser entièrement à son corps les soins que réclame sa fragilité. La chair est friande de luxure et de déportement. L'esprit n'acquiesce point au désir même conforme à la nature. L'une est amoureuse jusqu'à satiété du dormir et du manger. L'autre profite des veilles et des jeûnes, tellement qu'il se montre impatient de la mesure même de sommeil et de nourriture nécessaire pour l'entretien de la vie. Elle convoite la surabondance en toute espèce de bien. Il regarde comme une richesse importante d'avoir pour chaque jour une ration de pain plus que modeste. Elle aime la délicatesse des bains. Il trouve sa joie au dehors, négligée et sordide. Elle cherche à se faire une cour de flatteurs. il se complaît à la solitude infinie des déserts inaccessibles et fuit la présence des hommes. Elle se repaît des honneurs et des applaudissements, il se glorifie des injures et des persécutions.
Le rôle de la volonté de l'homme dans ce combat entre la chair et l'esprit.
Entre ces deux convoitises de l'âme, la volonté tient un milieu qui est pire. Ni les turpitudes du vice n'ont pour elle d'attrait, ni elle ne consent aux souffrances de la vertu. Elle cherche à s'abstenir des passions de la chair, mais elle se refuse à soutenir les douleurs sans lesquelles les désirs de l'esprit ne se peuvent accomplir. Aspirant à posséder la chasteté de corps sans châtier la chair, à obtenir la pureté de cœur sans la fatigue des veilles, à être riche de vertu tout en jouissant du repos, curieuse de posséder la grâce de la patience mais sans goûter l'âpre injure, de pratiquer l'humilité du Christ mais sans perdre l'honneur du monde, prête à embrasser la simplicité de la religion, à la condition de garder les prétentions du siècle, à servir le Christ, pourvu qu'elle ait en même temps l'applaudissement et la faveur des hommes, désireuse de confesser la vérité dans son intégrité austère, mais sans causer à personne le moindre déplaisir, empressée enfin à gagner les biens futurs, mais sans laisser échapper les biens présents. Une telle volonté ne nous ferait jamais parvenir à la perfection véritable. Elle nous induirait, au contraire, au pire état de tiédeur, pareil à ceux que le Seigneur flagelle dans ses reproches dans l'Apocalypse. « Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni chaud. Que n'es-tu froid ou chaud, mais tu es tiède. Et je vais commencer à te vomir de ma bouche. » Par bonheur, les guerres qui s'élèvent à droite et à gauche de la part de la chair et de l'esprit ont au fait de dissiper cet état de tiédeur. Si complaisant à notre volonté, nous nous laissons aller peu à peu au relâchement. Sur le champ, les aiguillons de la chair surgissent et nous blessent. Le vice et les passions ne nous permettent plus de rester en cet état de pureté qui nous charme, mais nous entraînent par des chemins d'épines vers la volupté et la froideur qui nous font frémir. L'orgueil de notre pureté nous serait donc plus funeste que tous les crimes et toutes les hontes. Et quelle que fût cette intégrité de chasteté, nous n'en aurions point davantage. Témoin, les puissances du mal dont nous fîmes mention précédemment, à qui les tentations de la chair étaient inconnues, mais que le seul élèvement de leur cœur précipita dans une ruine éternelle de la place sublime qu'elles occupaient dans les cieux, nous serions condamnés sans remède à la tiédeur, comme n'ayant dans notre corps ni dans notre conscience aucun indice révélateur de notre négligence. Nous ne prendrions point de peine pour parvenir à la ferveur de la perfection. Nous ne serions pas même exacts à la stricte observance de la sobriété et de l'abstinence si la tentation de la chair ne s'élevait en nous, qui nous humilie profondément et nous rend attentifs et diligents à nous purifier également des vices de l'esprit. Ceux qui sont chastes par nature nous donnent communément le spectacle de cette tiédeur. Libres de la loi de la chair, ils estiment n'avoir besoin ni du labeur de l'abstinence, ni de la contrition du cœur. Leur sécurité les énerve et on ne voit jamais s'empresser à chercher vainement ou à posséder la perfection du cœur, ni même à se purifier des vices de l'esprit. Cet état, qui s'éloigne de l'état charnel, est l'état animal. Il est pire certainement, car c'est là passer de la froideur à la tiédeur, et celle-ci est plus abominable, selon la parole du Seigneur. Germain dit alors, vous nous avez rendu évidente, à ce qu'il nous semble, l'utilité de la lutte entre la chair et l'esprit. Vous nous l'avez fait, pour ainsi dire, toucher du doigt. Nous vous prions de nous expliquer pareillement quelle différence il y a entre l'homme charnel et l'homme animal, et comment le second est pire que le premier. Daniel répondit, l'Écriture enseigne qu'il y a trois états de l'âme. Le premier est l'état charnel, le deuxième l'état animal, le troisième l'état spirituel. C'est ainsi que l'apôtre les désigne. Voici ce qu'il dit des hommes charnels. Je vous ai donné du lait à boire, non de la nourriture solide, car vous n'en étiez pas capable. Et vous ne l'êtes pas encore maintenant, parce que vous êtes charnels. Et de nouveau il dit, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel ?» De l'homme animal, il parle en ces termes. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui. Et de l'homme spirituel ? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Ailleurs, il dit encore, vous qui êtes spirituel, instruisez cette sorte de personne en esprit de douceur. Or, par le renoncement, nous avons cessé d'être charnels. J'entends que nous nous sommes séparés de la vie du siècle et que nous avons rompu avec le désordre manifeste. Mais animés d'une sainte hâte, nous devons tâcher de toutes nos forces de passer aussitôt à l'état spirituel, de peur qu'en nous flattant de ce renoncement extérieur au monde ou de ce dégagement des vices grossiers, nous ne nous persuadions faussement d'avoir atteint du même coup la plus haute perfection et ne devenions plus lâches et plus lents à nous purifier des autres passions. « Ainsi resterions-nous entre l'état charnel et le spirituel, incapables de nous élever jusqu'à celui-ci, parce que nous estimerions qu'il nous suffit amplement pour être parfaits, de nous être séparés, selon l'homme extérieur, de la vie du monde et de ses voluptés, et de n'avoir plus de part à la corruption ni aux œuvres de la chair. Mais trouvés en cet état de tiédeur, qui est le pire de tous, il ne nous resterait plus que d'être vomis de la bouche du Seigneur, selon qu'il le déclare lui-même. « Connais-tu froid ou chaud, mais tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. » Ceux qu'ils avaient reçus dans les entrailles de sa charité ont contracté une tiédeur malsaine. C'est à juste titre qu'il proclame que son cœur se soulève pour les vomir. S'il est permis de parler ainsi, il pouvait lui être une saine nourriture. Ils ont mieux aimé être détachés violemment de son cœur, devenu pire que les aliments qui n'approchèrent jamais des lèvres divines. De toute la répulsion que nous éprouvons, pour ce que les nausées nous ont contraints de rejeter. C'est donc bien avec raison que l'on dit que le tiède est déclaré pire que tout autre. L'homme charnel, c'est-à-dire le séculier ou le païen, viendra plus facilement à la vraie conversion pour s'élever ensuite aux cimes de la perfection. À notre prochain rendez-vous, nous poursuivrons avec les conférences de Saint Jean Cassien et commencerons avec les tentations d'Adam et celles du Christ.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.